Babylone. Nancy Ypsilantis.
Et William Irigoyen. Bonjour et bienvenue dans Babylone. On ne se voit pas. Est-ce bien? Est-ce mal? Jolie question. Hier, nous vous parlions de ces petites cartes magiques en plastique qui permettent à d'autres de savoir quels sont vos goûts lorsque vous faites vos achats. Mais vous êtes consentant lorsque vous acceptez de prendre une de ces petites cartes magiques. Aujourd'hui, autre Big Brother qui nous regarde, autre Big Data, mais celui des images, celle que prennent les vidéos surveillance ou protection, c'est selon dans les villes. Là, vous n'avez pas donné votre accord.
Alors la France, bah justement, j'y suis allé comme dans d'autres pays. Donc la vidéosurveillance se développe. Les opposants sont assez peu nombreux. C'est un peu le village d'Astérix. Hein. C'est du moins l'avis d'Éric Hellmann. Alors qui est Éric Hellmann? Il est sociologue. Il est professeur à l'université de Bourgogne à Dijon et il a soutenu précisément une thèse sur les fichiers de police en 1991. Et il travaille depuis lors sur les usages policiers des technologies de l'information et en particulier de la vidéosurveillance. Première question: qu'est-ce qui explique un tel développement? Réponse.
Il n'y a pas une raison unique. La première qu'on peut avancer, c'est d'abord qu'il y a eu une forte pression, en tout cas en Grande-Bretagne, pour ce que je connais bien, et puis ensuite la France. Pour la Suisse, je connais moins les ressorts économiques. En tout cas, ce qui est vrai pour la Grande-Bretagne et puis la France, c'est qu'il y a une forte pression du ministre de l'Intérieur, qui a largement subventionné les équipements. C'était le cas dans ce qu'on appelait les CCTV competition en Angleterre, au Pays de Galles, des années 90, avec, que ce soit de conservateurs ou de travaillistes, qu'il s'agisse ensuite en France du gouvernement Sarkozy. Au fond, Mystère dit, les caisses de l'État sont vides, on peut pas ajouter du personnel de police sur le terrain. Par contre, on peut vous aider à financer des équipements. Alors, ça a été un marché dupe en grande partie, puisque ce qui est financé, c'est l'investissement. Et en revanche, à charge pour les collectivités d'assurer le fonctionnement, de payer les salaires des opérateurs. Mais voilà, il y avait quand même dans un contexte économique difficile, il y a eu d'abord cette carotte, je dirais, financière. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est peut-être aussi une sorte de fascination, mais alors qui n'est pas propre à nos gouvernants, mais qui est aussi qu'on rencontre chez tous les citoyens, une sorte de fascination pour la technologie. C'est-à-dire cette conviction que les machines font mieux que les hommes. Pour tout régler. C'est très pascalien. Agenouillez-vous, vous aurez la foi. Et puis, de toute façon, après, quand dans 2 ou 3 ans plus tard, on se rend compte que ça n'a pas donné de résultat, eh bien, de toute façon, les élections sont passées, on a gagné ces élections, on a rassuré sa population, et puis, de toute façon, il y a rarement, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais en tout cas en Grande-Bretagne, oui, mais en France, non, d'études qui sont venues, d'évaluations indépendantes qui sont venues démontrer, ou pas, que ça marchait plus ou moins bien. Donc, il y avait là aussi une sorte de fascination pour la technique, et peut-être aussi, oui, un enjeu, parce que c'est quand même la particularité de la technologie, enfin de ces caméras, c'est que c'est toujours un ancrage très local. C'est les villes qui décident, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement peut inciter, ils l'ont fait en Grande-Bretagne, ils l'ont fait en France, mais fondamentalement ceux qui investissent, ce sont des collectivités. C'est des villes, Lausanne, Genève, je sais pas si toutes l'ont fait en Suisse, en France, de droite ou de gauche, on s'est équipé, en Angleterre pareil. Et donc c'est quand même une technologie qui s'inscrit dans un usage très particulier, très urbain. Et curieusement, quand on regarde la chronologie des équipements, c'est quand même souvent 1 ou 2 ans avant les élections municipales qu'on s'engage dans cette voie. Et je pense qu'il y a aussi quelque part une technologie qui est là beaucoup moins, peut-être autant, peut-être pas moins, mais en tout cas autant pour prévenir les délinquances que de rassurer la population. Et sans doute là où elle a mieux marché, parce que les résultats au final sur l'efficacité sur le terrain policier est quand même très très limité. En revanche, quand on regarde les enquêtes d'opinion, quels que soient les pays et quelle que soit la date de ces enquêtes, elles sont faites régulièrement, il y a manifestement une adhésion des populations à ces dispositifs. Et donc la quatrième raison peut-être que je pourrais avancer, qui relève plutôt de l'anthropologie sociale, c'est peut-être aussi le fait que les images, enfin être filmé, c'est un geste qui s'est banalisé. Enfin, on pourrait faire le lien, alors même si c'est peut-être un peu audacieux, avec la télé-réalité, avec aujourd'hui cette, je pense encore à ça, j'écoutais ma radio il y a quelques heures, avec cette capacité qu'ont même les quotidiens à rendre la vie privé des personnalités politiques publiques, cette tyrannie de la transparence, comme on l'appelle souvent. Je pense que ça participe aussi à cette banalisation. Au fond, Voilà, il y a plus grand chose qui nous gêne quand on est filmé toute la journée. Parce que de toute façon, on s'exhibe sur le web, on s'exhibe sur les réseaux sociaux. Cette impudeur, peut-être qu'elle participe, cette impudeur sur les réseaux sociaux, participe aussi à cette banalisation des caméras de surveillance. Donc voilà, c'est pas un élément, à mon avis, qui explique ce boom depuis 10 ans des caméras de surveillance dans les villes. Je pense que c'est une somme d'événements, de changements sociaux, qui ont participé à cet essor. Au Québec, on considère que par essence, les dispositifs sont liberticides, pour faire court. C'est-à-dire qu'on dit, au fond, un système de surveillance, de caméras de surveillance, porte atteinte, par définition, aux libertés des citoyens. Et les collectivités qui souhaitent s'en équiper doivent prouver d'abord, avant d'avoir le feu vert de la commission, qu'ils ont essayé d'autres moyens pour régler les problèmes de délinquance qu'ils avaient à régler. Et au fond, les caméras viennent comme un dernier recours. Prouvez d'abord que vous n'avez pas pu faire mieux avec des moyens moins intrusifs, moins attentatoires aux libertés, et on vous autorisera éventuellement des caméras. Alors que c'est chez nous, c'est le premier recours, c'est pas le dernier, c'est le premier recours.
Mais pourquoi, à votre avis ?
Parce que c'est plus simple. C'est plus simple sur le plan financier. Quand on a des aides pour le faire, c'est plus simple. Et puis, on peut surtout, à mon avis aussi, politiquement, montrer très vite aux électeurs, enfin à la population, qu'on fait quelque chose. Et qu'on peut les caméras, ça se voit. En principe, si on veut que ça marche vraiment, il faut les exhiber, enfin, il faut les montrer. On informe les gens. Donc, je pense qu'un avantage, c'est que c'est les effets escomptés. Ils viennent peut-être très tard, mais l'installation elle-même, elle fait l'objet de publicités, de débats, et ça rassure les populations. Et de fait, les commissions qui avaient vocation et qui ont encore vocation à éviter des usages trop importants, abusifs ou excessifs, ne font pas leur travail. Là, récemment, il y a un rapport en France, on a une commission dite de l'informatique et des libertés qui a un peu ce rôle-là, moins de pour les installations, mais qui fait des contrôles sur place, qui raconte dans son dernier rapport publié en mai 2014 pour l'année 2013, là, qu'il y a des restaurants qui ont équipé leur salle de caméras de surveillance, alors même qu'il n'y avait aucun problème ni de bagarre ou quoi que ce soit, et les commissions en charge de l'installation, enfin de verrouiller, de contrôler l'installation, ne l'ont pas fait. C'est-à-dire, voilà, on peut mettre des caméras dans des boulangeries aujourd'hui, dans des magasins, sans que pour des restaurants ou autres, sans que pour autant il y ait une menace particulière. Ce qui témoigne à mon avis de la banalisation de l'outil. C'est-à-dire qu'au fond, il y avait un sociologue anglais qui disait désormais ces caméras font partie du paysage urbain comme autrefois les cabines téléphoniques. Plus personne ne s'en émeut, plus personne vraiment y fait attention. Donc pour ça, c'est pour une raison pour laquelle les verrous qui ont été mis en place dans les années 90, qui avaient vocation à contrôler les installations, ne fonctionnent plus.
Est-ce que pour vous, il existe, au moins en France, une différence entre une vidéosurveillance de droite et une vidéosurveillance de gauche, ou dite de gauche ?
Non, quand on regarde la cartographie des installations, les seules mairies, elles sont rares, les seules mairies qui n'ont pas mis de caméra et qui s'y refusent encore aujourd'hui, au fond ces petits villages gaulois, comme je les désigne en faisant référence à Astérix et Obélix, c'est des mairies dirigées soit par des verts, donc elles sont peu nombreuses, puisque même à Grenoble, le nouveau maire a annoncé qu'il allait peut-être même les retirer, j'y crois pas, mais en tout cas c'était une annonce, ou alors des maires communistes. De fait, quand on regarde la cartographie politique en France, des mairies dirigées par des communistes ou des verts sont quand même très peu nombreux. Donc pour le reste, à droite comme à gauche, les choses ne sont pas très différentes.
Merci au sociologue et professeur à l'université de Bourgogne à Dijon, Eric Heilmann, qui co-signe Vidéosurveillance ou Vidéoprotection, point d'interrogation, aussi paru aux éditions Le Muscadier.